Du 24 novembre au 3 décembre 2008, le Conseil général du Var organisait à Toulon les deuxièmes rencontres artistiques du Var, permettant aux artistes et enseignants d'échanger sur les nouvelles écritures du spectacle vivant. Le 1er décembre 2008, la rencontre débat et les spectacles étaient proposés par le théâtre Massalia et le pôle jeune public autour des nouvelles écritures, des théâtres de marionnettes et d'objets. Graziella Végis, du théâtre Massalia, nous présente maintenant le programme de cette journée et les intervenants au débat.
Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des théâtres de marionnettes et d'objets. On va commencer donc avec le théâtre de cuisine de Christian Carignon. Ensuite, on aura Stéphanie Lefort, qui est auteur d'un livre qui s'intitule « Marionnettes, le corps à l'ouvrage », qui va nous faire donc une communication sur le théâtre de marionnettes, son histoire, l'évolution de ce théâtre-là et son inscription dans le paysage théâtral contemporain. Pour ensuite laisser le plateau à Jacques Templereau, pour une conférence spectacle qui s'intitule « Le mouvement communicatif ». On termine ce matin, mais on reprendra, donc je pense, vers 14h30, 15h, pour une communication de Chantal Guinbeau. Alors Chantal Guinbeau, qui est scénographe et maître de conférence à l'université de Metz, devait venir, et bon, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut pas être là aujourd'hui. Elle m'a laissé sa conférence à vous lire. Après cette lecture, on s'installe, donc tous les intervenants nous rejoignent. Donc il s'agit de Roland Schoen, du Théâtre Anciel, de Cyril Bourgois, de la compagnie Punch is Not Dead, de David Girondin-Moab, de la compagnie Pseudonymo, de Jacques Templereau, de Pas de Compagnie, de Christian Carignon, du Théâtre de Cuisine, et puis de Philippe Foulquier, qui va nous rejoindre aussi également, qui est directeur du Théâtre Massalia à Marseille. Ça, c'est Stéphanie Lefort qui va animer la discussion. On va explorer ensemble cette idée de nouveauté et d'écriture au théâtre de marionnettes et d'objets. Donc, j'ai oublié Catherine Somsté dans la discussion, voilà, qui est de la compagnie Médiane, qui vient de Strasbourg. Voilà. Pour le théâtre de cuisine, je vais vous demander de vous rapprocher. C'est important de vous rapprocher. Voilà.
Voilà le théâtre de cuisine. C'est une vieille dame qui, cette année, a 30 ans. Exactement 30 ans. Il n'a pas bougé. D'autres personnes autour du théâtre de cuisine ont bougé, mais lui n'a pas bougé. Il a été intégralement fabriqué avec les objets de poubelle que nous avons ramassés lors de nos tournées. Le théâtre de cuisine, au bout de cette longue vie, s'est automatisé, évidemment. Je veux dire, on est aussi dans les technologies modernes. Alors, il n'a plus besoin de comédiens. C'est un théâtre qui fonctionne tout seul, comme la plupart des théâtres, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez ? La mairie du petit village, c'est un petit village, vous le voyez bien. D'ailleurs, ceci nous donne l'échelle du village, et ceci est une sucette, non. Non, le conseil général est vraiment pas très bon. Non, c'est un, je l'ai entendu, c'est un peuplier. Ben oui. Le théâtre de cuisine est orienté nord-sud. Toujours important d'orienter les choses, précisément. C'est pas à peu près nord, ça brûle, c'est ça ?
Ça fume.
Ça fume, oui. On va se dépêcher, La sortie de secours est là-bas. Alors, et soudain,
Faux fidou, faux fidou, faux
C'était évidemment les boueurs.
Oui, si tu veux dire sur le tapis sur la vie, et sur le pinon, sur le pinon, et 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 sur le pinon, pipi 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 pipi.
Le manège, il est où maintenant?
Non.
Papa.
Non.
Oh, papa.
Non.
Ouais, Spido, qu'en fait-tu? Je t'ai parlé, t'as fait tes photos, ce qui est pour une marionnette. Oui, marionnette, oui. Chut. Rose, bag, run, be fair, wild, bean, ball, swear, bear, ring. Oh, tratti se fecando di da lui da tuci, ti dei imparato di datore, da da tuci. Oh, e si finì, e si te bianco. E si trova, tu si trova, e si trova. Oh, dove si trova, 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 dove si trova.
E voilà.
Nous allons continuer après cette mise en route fulgurante de Christian Carignon. Je vais laisser la parole à Stéphanie Lefort, qui est auteure de Marionnette, le corps à l'ouvrage. Stéphanie fait partie depuis 1998 de l'équipe en charge du théâtre Le Guignol de Lyon. Elle y est à la fois administratrice et auteure.
Merci. Bon, je vous parle quand même vite fait du parcours qui m'a amené chez Guignol, parce que c'est un tout avec les petites recherches que je mène. Quand j'ai débarqué chez les Onzons, comme beaucoup de gens qui débarquent chez Guignol, c'est parce que j'étais au chômage, j'ai débarqué chez les Onzons, et là, ce qui m'a le plus subjuguée, c'est le derrière, c'est l'arrière, hein, c'est ce qui se passait derrière, dans les coulisses. Je vais commencer par faire une tentative de définition, même si la marionnette se réduit jamais à une définition, et puis après, je vais tâcher de développer, de tirer des fils qui vont, comme ça, discerner des grands âges de la marionnette. Je vais commencer par l'enfance de la marionnette. Ensuite, je vais parler de l'adolescence de la marionnette rebelle, parce que l'adolescence est souvent rebelle. Et puis, je vais tenter, comme ça, d'aller petit à petit vers une sorte d'état plus contemporain, plus moderne, de la marionnette qui aurait atteint une certaine âge adulte. Alors ça, l'âge adulte, on le prend comme on a envie. Alors je commence avec ces petites tentatives de définition qui n'en est pas vraiment une, mais je vais utiliser deux mots qui sont un peu des mots valises. Le premier mot, c'est le mot outil. Alors quand je parle d'outil, je me remets un peu dans l'esprit, à la place de l'australopithèque de base, hein, qui sort de sa caverne et qui n'a pas d'outil. À partir du moment où il va vouloir rentrer en relation avec ce monde, à partir du moment où une sorte d'altérité se dessine dans son cerveau, à partir de ce moment-là, il va falloir qu'il mette en œuvre un outil. Et la fabrication de l'outil, c'est la fabrication de l'idée. Alors, à côté de cet outil, il y a évidemment l'image. L'image, elle induit cette idée de dualité, de division, hein, de déchirure entre moi et les autres. L'image, à partir du moment où elle intervient, ça veut dire que non seulement j'ai été en mesure de fabriquer un outil, mais en plus, avec cet outil, je vais fabriquer du discours. Donc, je vais fabriquer un point de vue, je vais fabriquer de la communication, je vais me mettre en rapport avec les autres et surtout, je vais diffuser mon point de vue. Image plus outil donne quelque chose qui peut s'apparenter à un grand récit, hein, nos grands récits, les grands récits qui structurent nos civilisations. Et il me semble que la marionnette réalise une synthèse super intéressante entre toutes ces choses-là qui sont de l'ordre du mythe, qui sont de l'ordre de la technologie et qui sont de l'ordre de la science. C'est là que je rentre dans le dur et que j'essaye de vous faire une espèce de panorama de brassage comme ça de la marionnette en général. C'est vrai que quand on commence à s'intéresser un petit peu à l'histoire de la marionnette, on se rend compte que quasiment dans toutes les civilisations, les sociétés, etc., l'origine de la marionnette, c'est une origine sacrée, divine. Allez, voilà, alors, les premières, toutes premières marionnettes, on les a trouvées en Égypte ancienne. La marionnette ne représente pas le dieu, elle est dieu. La marionnette ne représente pas, elle l'est. On n'est pas en reste, hein, au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est quand même une grande fabrique d'images censées nous faire croire, hein, nous donner la foi, nous faire croire. On organise des grandes processions et dans le cadre de ces processions, on transporte Sainte Marie, la Vierge Marie, en effigie au bout d'un bâton. On l'appellera du coup cette espèce de bâton avec Marie, comme ça en effigie, une marotte, marotte, mariotte, nous donnera le mot marionnette. Donc voilà pour cette espèce de premier âge. On arrive au deuxième âge, qui serait un peu le temps de l'adolescence, donc le temps de toutes les rébellions, de toutes les ruptures. Quand on pense rébellion, avec la marionnette, on pense Polichinelle. Polichinelle, qui est né en fait, hein, à peu près à la Renaissance, au moment de la Renaissance italienne, est également très en vogue ce qu'on appelle les farces, et qui mettent en scène des personnages très stéréotypés qui sont représentatifs de la société telle qu'elle est à ce moment-là. C'est de ce théâtre-là, de ce théâtre de gestes, de ce théâtre de farce, que va surgir Polichinelle, à peu près au milieu du XVIe siècle. Commedia dell'arte, puisque c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Et de cette comédie italienne va donc surgir cette espèce de personnage, Polichinelle, que l'on va voir un petit peu partout dans les foires parisiennes notamment. Polichinelle, ce qu'il amène, c'est donc une forme, c'est donc une certaine manière de jouer, sans texte, sans langage, avec une gestuelle très particulière. Mais ce qu'il amène aussi, c'est un certain état d'esprit. Ces farces étaient des farces très sociales, hein, avec une satire politique quand même assez féroce. Laurent Mourguet, en 1808, fabrique Guignol. Guignol hérite des principaux caractères de ce Polichinelle. À l'inverse de Polichinelle, Guignol est plus un théâtre de caricature qui va mettre en scène les gens tels qu'ils sont devant le Castelet. Alors que Polichinelle est plus de l'ordre du symbole. Mais ça ressort quand même de la même envie de remettre en question la hiérarchie sociale. Et c'est pas pour rien que Guignol sera un peu une espèce de symbole dans les années 1830, au moment de la révolte des Canuts, une espèce de symbole du Canut en révolte, de l'ouvrier en révolte. Deuxième étape de rébellion, deuxième période adolescente, on va dire, bien plus proche de nous, que je verrai davantage au moment de ce qu'on a appelé les avant-gardes, hein, artistiques, après la Première Guerre mondiale. Des gens comme Alfred Jarry, des gens comme Edward Gordon Craig, que tous les marionnettistes connaissent, sont des penseurs de cette espèce de révolution théâtrale. Suivant ça, le courant symboliste, ces nouveaux dramaturges s'interrogent vraiment sur ce que c'est que la théâtralité et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de mettre en scène la réalité. Le symbolisme amène trois choses, la complexité, l'analogie et l'interaction, c'est-à-dire que nous regardons, nous spectateurs, nous publics, on fait partie aussi du processus de création. La rencontre importante va se passer au début du, enfin, dans les années 30, quand les plasticiens vont prendre à leur tour le problème en main. Se passe donc une espèce d'aller-retour entre plasticien et homme de théâtre. Un plasticien chorégraphe du Bauhaus, qui s'appelle Oscar Schlemmer, met en scène un ballet qu'il appelle le ballet triadique, où les comédiens disparaissent derrière des formes géométriques. Pour eux, c'est un peu le moyen d'accéder à une nouvelle forme de réalité qui serait une réalité complexe. Le monde étant devenu complexe, c'est cette espèce de complexité qu'il faut essayer de mettre en forme. On multiplie donc les signes, la lumière, l'espace, les différents objets qui ne sont plus des accessoires mais qui sont partie prenante maintenant de la scène. Alors on en arrive du coup à ce troisième âge qui serait comme une espèce de plénitude, de sérénité, de réconciliation des extrêmes. Il y a une petite voix un petit peu dissonante au milieu de ce concert de plasticiens, d'artistes qui défendent donc le rejet du texte et le rejet de l'acteur comédien. Et cette voix dissonante, c'est celle d'Antonin Artaud. Pour Antonin Artaud, le grand coupable, c'est Descartes, qui a fait de l'homme une espèce d'animal-machine. Et il faut remettre sur scène l'homme dans toute sa composante physique et spirituelle, mais physique. C'est-à-dire que la voix est importante, le souffle est important, les humeurs sont importantes, les tremblements sont importants, mais en tant que signe d'une réalité physique. À peu près au même moment, dans les années 50, on découvre une nouvelle forme de théâtre de marionnettes japonais qui s'appelle le bunraku. Dans ce théâtre de marionnettes japonais, les manipulateurs sont à vue. Alors là, commence à germer l'idée que finalement, peut-être que l'intérêt, c'est de mettre sur scène en même temps, en confrontation, à la fois le corps du manipulateur et à la fois la marionnette. Les façons de manipuler, de prendre la marionnette, de bouger la marionnette, de dire avec la marionnette évoluent. On est à la fois dans le domaine du sensible, du symbole, du visible et de l'invisible, du suggéré, de l'imaginaire. En ça, la marionnette a énormément de choses, a énormément de réponses à apporter aux grandes questions d'aujourd'hui qui sont: qu'est-ce que me dit l'image? Qu'est-ce que me dit cette virtualité? Que me disent les nouvelles technologies? Je vais finir en vous lisant une citation, si je la retrouve, de Annie Lebrun, qui a écrit un bouquin très, très intéressant dans les années 2000, qui s'appelle « Du trop de réalité » et qui interroge vraiment cette problématique-là de quoi est faite la réalité. Annie Lebrun écrit « Systématiquement arrachés à la nuit de leur cohérence profonde, il n'est plus de signes qui ne finissent par dériver loin du sens. » Et, catastrophe pour catastrophe, on est en droit de se demander si la prolifération de l'insignifiance qui en résulte n'est pas plus inquiétante que la disparition de la couche d'ozone. L'aurions-nous oublié, les objets imaginaires sont aussi nécessaires à notre survie.
État de nécessité donc, mais surtout état de grâce. Voici maintenant un extrait de la conférence spectacle de Jacques Templeroux.
Le mouvement communicatif.
Boire déchiré.
Tu es déchiré, tu bois comme un trou.
Marcher, trou,
lit, boire, pas, trou, boire, lit, pas, trou, boire, lit, pète, boire, pète, boire,
les consonnes, ils ont inventé les consonnes.
Putubulu, pitibili, pitiboulot, petit ballon.
Ils ont réinventé l'écriture. Quand il est rentré en Italie, Marco Polo, dans son fameux livre, a reparlé du phénomène.
Entre eux, ils disaient, ils ont simplifié, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien entre eux. Et là,
Il ne s'ennuyait pas. Et Marco voyait sortir de l'empereur des fils. Et de lui sortaient des fils qui rencontraient ceux de l'empereur dans le silence. Les gens de la cour autour ne voyaient pas les fils. Des fils invisibles. C'est là que, dans son fameux livre, Marco Polo a parlé du phénomène. Il l'a appelé il movimento comunicativo, le mouvement communicatif. Deux individus, pareils, mais différents, entre eux, fils invisibles, s'entrecroisent, forment une sorte de nœud, un objet, une sorte d'objet qui s'anime. Un spectre ? Oui, un spectre. Un spectre, mais un spectre tiré par des fils. Une marionnette ? Oui, oui. Mais une marionnette qui tire aussi les fils. L'objet devient sujet. Un troisième. Le fameux 1 plus 1 égale 3 dont parle Cheng dans... Oui, dans... Cheng a parlé à Marco Polo. L'érudit chinois. Ce qui naît entre les sujets est aussi important que les sujets eux-mêmes.
Vous suivez ?
D'ailleurs, en tartiste, en général, on comprend ces choses-là.
Comme je vous l'annonçais ce matin, je vous prie d'excuser Chantal Guinbaud-Slamovitz qui ne peut pas être présente avec nous, mais qui néanmoins m'a envoyé le texte de sa communication, que je vais donc vous lire. Alors, elle s'intitule « Jouer avec les signes, l'amphibologie du théâtre d'objets ». Amphibologie, c'est un mot savant qui désigne la présence d'un double sens ou d'un sens double, une ambiguïté. Au fil de son évolution, l'esthétique théâtrale a penché successivement du côté de l'épique et du dramatique. Le théâtre épique, ce fut l'épopée, l'art du conteur ou des poètes antiques, puis les fresques scéniques de l'époque médiévale, puis, d'une autre façon, de l'époque shakespearienne, et enfin le théâtre brechtien du XXe siècle, affichant ostensiblement l'orientation politique de ces pratiques depuis toujours très populaires. Le théâtre dramatique fut d'abord défini par le déplacement du conteur vers le statut d'acteur, de la narration vers l'incarnation, laquelle deviendra de plus en plus psychologique, et on parviendra au modèle du théâtre classique au XVIIe siècle avec sa règle des trois unités, de temps, de lieu et d'action. On pourrait radicaliser ces deux modèles en donnant le premier comme libéral, sans entrave et sans loi, sinon celle de l'éclatement, et l'autre comme tenant d'une régulation, de la construction et du respect de codes volontiers admis. Mais ce serait bien sûr réducteur. Le théâtre d'objets se caractérise par un aller-retour entre l'épique et le dramatique, nécessitant de la part de son ou de ses interprètes la souplesse physique et mentale qui nous amènera à le comparer à un poète jongleur-bricoleur. De signes s'entend. De parole épos à action drama, le comédien oscille tout le long du spectacle entre deux pôles de l'expression théâtrale, tout en réinventant les mythes au gré de l'actualité et de son propre vécu, de l'histoire avec un grand H aux petites histoires. Mais peut-on parler seulement de représentation ? L'interprète de théâtre d'objets présente des choses qui deviennent les protagonistes, et il reconstitue des scènes par association des signes visuels et linguistiques, les images et les mots. À l'instar du peintre Magritte, il refuse toute évidence, à commencer par celle de l'incarnation d'un personnage par le comédien. Refuser toute évidence en accolant aux objets des énoncés particuliers. Critique de la réalité donc, ou plutôt de la perception du réel que développe Magritte, à partir de quoi il évoluera vers une introduction de l'imaginaire dans le réel, dans un esprit plus littéralement surréaliste. Ce jeu, également exploré dans le théâtre d'objets, nous invite à penser que celui-ci, dans sa position intermédiaire entre l'épique et le dramatique, est surtout de nature essentiellement poétique. Je sais bien que ce mot est galvaudé, mais si l'on revient à son sens premier, originel, on saisit d'emblée de quels enjeux il retourne. Quand on parle du caractère poétique d'une œuvre, on fait référence à un travail sur la matérialité de ses éléments constitutifs, un travail sur la forme. Quand on parle d'espace poétique ou du caractère poétique d'une représentation, on évoque un travail privilégié sur la forme qui peut sembler parfois abstrait, mais qui vise à une polysémie, une pluralité de significations. Roman Paska, déjà, avait écrit « La marionnette est au théâtre ce que la poésie est à la littérature ». C'est tout particulièrement le cas pour le théâtre d'objets. On est légitimement en droit de s'interroger sur la valeur des signes manipulés sur la scène et de rapprocher la démarche de celle d'un Magritte. Les signes sont alors manipulés pour former des figures, figures de style qui nous viennent de l'analyse littéraire, comme la métaphore par exemple. Dans ce théâtre poétique, où l'on tente à exprimer avec force les petits riens de la vie ordinaire et à magnifier l'insignifiant, l'homme, poète et jongleur, est à la fois au centre, maître d'œuvre égocentrique et en même temps décentré, dans le sens où il n'a pas vraiment le premier rôle mais les a tous, et où il évolue dans un monde déshumanisé, peuplé des indices personnifiés, traces de l'humanité, dont il est le bricoleur à des fins productives de mythe. Mythe, récit fondateur des valeurs d'une société.
L'idée de ce débat, c'est de...
Stéphanie Lefort.
Parler, digresser, réfléchir ensemble avec donc des artistes qui font du théâtre d'objets ou qui sont engagés plus dans les nouvelles technologies, etc. Sur la thématique centrale qui est les nouvelles écritures. Et puis en dernier, on abordera, on avait souhaité aussi aborder la question du jeune public, parce que c'est une question qui agace souvent. Je vais laisser donc la parole à mon voisin de droite, Roland Schoen, et puis je vous laisse vous présenter tous succinctement.
Roland Schoen, du théâtre en ciel, bricoleur, oui, j'aime bien ce terme, voilà.
Catherine Sombsté, de la compagnie Médiane. On travaille et on revient généralement toujours au même point, Strasbourg.
Philippe Voulquier, théâtre Massalia.
David Girondin-Moab, la compagnie Pseudonymo à Reims.
Et Cyril Bourgois, la compagnie Punch is Not Dead, association La Rengaine.
Christian Carignon, théâtre de cuisine à Marseille. Et la première fois que j'ai vu le mot bricolage dans un texte de Roland Schoen, c'était brie, trait d'union, collage, deux L. Et je me suis arrêté un long moment là-dessus.
Jacques Templereau, théâtre Manarf, Angers, voilà.
Alors, puisque Christian tend la perche avec son bricolage, j'ai bien envie de commencer par cette histoire de bricolage. Alors, je te laisse parler, Roland, là-dessus.
Et justement, ça tombe très bien parce que c'est l'anniversaire de celui qui a pensé le bricolage. C'est Lévi-Strauss, quand même. Dans son bouquin « La pensée sauvage », il revient sur ce terme de bricolage pour dire que c'est la pratique de penser de ce qu'il appelle la pensée magique. Et qu'il a analysé et qu'il a défendu en voulant prouver que la pensée magique n'est pas une sorte de truc mal foutu qui précédait la pensée scientifique. Et tout cela pour former des ensembles hétérogènes. C'est ça aussi une notion très différente, le bri et le collage, c'est-à-dire des bouts qui ont été brisés et le collage qui les reconstitue pour une autre fonction. Et Lévi-Strauss souligne que l'art, pour lui, l'art, c'est quelque chose qui fonctionne entre les deux, entre la pensée magique et la pensée... C'est un intermédiaire dans ces deux pensées.
La marionnette, pour moi, c'est un petit peu comme de la peinture figurative.
Catherine Sombsté.
On figure les choses, on reproduit du mouvement et tout ça. Et quand on prend un bouchon de champagne, c'est un petit peu l'équivalent de l'hyperréalisme. Et puis alors après, on continue un petit peu, hein, on arrive à de la matière. Et là, on joue avec du sable, avec du vent, avec des choses beaucoup de plus en plus épurées, mais qu'on peut toujours toucher. On peut dessiner dans le sable avec son doigt, on peut faire des choses comme ça. Et le parallèle avec la peinture, ça serait, on arrive à des tableaux qui ne figurent plus rien, mais où on peint, il y a des tableaux avec de la boue, avec du sable, avec tout ça. C'est l'abstraction, quoi. Et alors maintenant, après avoir travaillé avec du vent, avec de la matière, avec des images, avoir réussi par diverses choses à replacer même des personnages dans les images qui étaient petites redevenues grandes, et ben moi là où j'en suis, c'est comment faire pour faire frotter le réel et le virtuel.
David, est-ce que toi tu travailles avec les nouvelles technologies? La question de la nouveauté, elle pose évidemment la question des nouvelles technologies, même si, comme on le disait ce matin, rien n'est nouveau dans l'histoire. Voilà, comment ça fait de la matière?
C'est probablement à cet endroit-là que ça se passe, et c'est pour ça que je trouvais ça plutôt intéressant, même si à un moment donné, à force de parler des outils eux-mêmes et pas de comment on s'en sert, on finit par plus comprendre de quoi on parle.
David Girondin.
Moi, ce qui m'intéresse dans le théâtre de marionnettes, c'est l'endroit du fantastique, c'est-à-dire l'endroit où le monde bascule sur autre chose. Sur une brèche comme ça dans un autre univers.
Par rapport à ce qu'on appelle le virtuel, tout ça,
Roland Schoen.
Disons plutôt que de virtuel et de réel, disons des champs du sensible. En fait, ce sont des niveaux de sensible différents. Voilà. C'est Lacan a une magnifique définition. Il disait il y a des gens qui, c'était difficile tout ça. Il y a un moment, quelqu'un lui avait osé lui demander dans un séminaire, il faut le faire. Mais enfin, le réel, c'est quoi? Il dit le réel, c'est comme un type qui lit son journal et il se plante dans un réverbère, quoi. Alors il dit vous comprenez? Alors vous comprenez? Il dit non. Vous êtes complètement dedans. Dans le sens où le réel, c'est ce qui se rappelle, quoi. Le réel, ça revient à la charge, à la preuve. Il y a des inondations, il y a des machins, il y a l'objet. L'objet ne fonctionne jamais comme on veut. On le sait, c'est souvent ce que les comédiens ne veulent pas entendre parler. Ils aiment pas les objets, ni jouer avec des marionnettes, parce que ça se rappelle tout le temps, ça ne marche jamais. Et c'est ça qui est bien, voilà. Donc c'est pas comment dirais-je, je ne fais pas du théâtre d'objets parce que je trouve que ça va plus proche du réel, pas du tout. C'est un type de sensibilité, j'aime bien penser avec mes mains. Voilà.
Roland Schoen, bonjour.
Bonjour.
Théâtre d'objets, théâtre de marionnettes, deux pratiques théâtrales cousines, mais qu'on a aussi un peu tendance à opposer. Pourtant, dans votre pratique, dans votre travail, elles se rejoignent sans arrêt et s'entremêlent.
Oui, parce que moi, je suis parti de la marionnette, et puis entre-temps, il y a eu les objets. Je passe toujours de l'un à l'autre. Et moi, j'aimerais plutôt parler d'un théâtre par objet interposé. Je crois qu'en fait, c'est ça la grande démarcation dans le monde du théâtre. Il y a un théâtre qui fait utiliser des objets à des comédiens et il y en a un autre où il n'y a pas d'objet. Et ça, c'est une démarcation très importante parce que c'est vraiment une pratique. Et on le voit quotidiennement quand on travaille avec des comédiens. Quand on leur met un objet dans les pattes, il y en a qui s'en tirent et d'autres qui ne s'en tirent pas. C'est vraiment très particulier.
Votre parcours vous a fait passer de la psychologie au théâtre d'objets. Qu'est-ce qui a orienté ce passage?
J'ai été pendant plus de 25 ans psychiatre. J'ai travaillé avec des enfants autistes. J'ai toujours fait de l'art plastique. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir faire deux métiers dans ma vie. En fait, c'est ça. D'une part, j'étais psychiatre donc dans un hôpital de jour. Et d'autre part, je travaillais le théâtre. Et c'est sûr que ce sont des pratiques très différentes, qui ne peuvent pas se mélanger, mais en même temps qui se répondent par les questions qu'elles posent. Les enfants autistes, justement par rapport aux objets, posent de sacrées questions. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'objets. Et on se rend compte que nous, pour nous structurer en tant qu'êtres à peu près normaux, on a besoin des objets. Et je crois que les arts sont en train aussi d'exprimer cette découverte, quoi, en quelque sorte.
Est-ce que le théâtre d'objets est objectif ? Est-ce qu'il fait justement abstraction de la psychologie, hein, des personnages ?
C'est le spectateur qui lit. Et toutes les intentions qu'on donne au jeu, on oublie que ça va pas directement au spectateur. C'est pas vrai. Toutes les intentions des créateurs n'arrivent pas directement dans l'esprit du spectateur. Il y a autre chose entre les deux. Entre les deux, il y a le spectacle, la performance. Et le spectateur, lui, lit à travers sa propre sensibilité.
Le théâtre d'objets est un théâtre qui a beaucoup à voir avec la mémoire, mais pas tant une mémoire individuelle, quelque chose qu'on pourrait dire une mémoire partagée, une mémoire collective.
Ça, je suis très sensible à ça. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Musée Maison, qui fait parler les gens des objets, leur objet préféré. C'est pas un objet de prix, ce sont des objets de mémoire, c'est-à-dire des objets qui leur font souvenir de choses, et ce sont des supports à des pensées. En fait, c'est ça. Et tant que ces pensées sont vivantes, ou parfois douloureuses, ils ne les ont pas digérées, elles sont là. Parfois, quand ces pensées ont été digérées, ces objets disparaissent. Il y a comme ça des objets très marquants qui les aident à se structurer en tant qu'être pensant, quoi.
Le théâtre d'objets s'est structuré dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, comme une sorte d'anti-théâtre, enfin, en tout cas quelque chose qui était très critique à l'égard des formes classiques du théâtre. Un théâtre, des théâtres d'ailleurs, qui n'accueillaient pas volontiers les compagnies et les artistes de théâtre d'objets. De même que le théâtre de marionnettes s'est créé comme un théâtre subversif. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que et le théâtre d'objets et le théâtre de marionnettes sont un petit peu plus rentrés dans l'institution et sont peut-être un peu moins subversifs qu'ils ne l'étaient naguère ?
Ça, c'est une grande discussion, ça, de savoir comment on est subversif. Actuellement, être subversif, vu le monde qu'on a, doit trouver d'autres façons d'être. Avant, on disait subversif, c'est montrer la face cachée des choses, montrer les avoir un discours toujours dans l'illusion que ce discours-là va directement être perçu par le spectateur et qu'il va directement passer à l'action. C'est ça un peu aussi à un moment là. Maintenant, on n'en est plus là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois que le théâtre d'objets, ce qu'il fait, c'est au lieu de consensus, c'est un dissensus au niveau des sensibilités. Et je crois que là, il y a tout un travail à faire.
Quelle est la frontière entre le vivant et le non-vivant ? Est-ce que l'objet ou la marionnette ne sont pas justement sur cette frontière-là ?
Ah ben, on peut faire croire, c'est toujours le problème, hein, faire croire qu'il est vivant à partir du moment où il a une autonomie, un mouvement. Et ça, c'est l'art du théâtre. C'est-à-dire un moment où on lui donne un mouvement et qu'on a l'impression que ce mouvement, c'est lui qui l'a décidé, c'est là où l'illusion du mouvement commence, et c'est là où le travail de la manipulation commence, quoi.
Pourtant, les statues des dieux grecs étaient immobiles, et pourtant elles étaient non seulement vivantes, mais même divines, même sans mouvement.
On pourrait dire que c'est une manipulation immobile.
Il y a des mouvements immobiles. Merci Roland Cheul.
Merci.
Retour au débat, les nouvelles écritures des théâtres de marionnettes et d'objets, animés par Stéphanie Lefort.
J'ai bien envie de revenir sur l'histoire du cinéma et du collage et du montage.
Christian Carignon.
C'est comme si l'invention du cinéma ouvrait la porte à tout l'art moderne. Enfin, on a besoin de monter la réalité. D'où vient le théâtre d'objets, le genre de question qu'on a pu se faire poser, et on est strictement incapable d'y répondre. Et puis un jour, en travaillant sur le cinéma, je me rends compte que ce collage, cette déstructuration, la guerre de 14 dont tu parles ce matin, comment les corps ne sont plus entiers, comment les gueules cassées reviennent avec les gueules des tableaux de Picasso. Enfin, je veux dire, c'est comme si la réalité entrait dans l'art et nous disait, au travers de quelque chose de plutôt marrant, comme les montres molles, que c'est la réalité dans la pleine gueule, quoi. Enfin, en pleine gueule, qu'on la prend là.
comme si le théâtre d'objets avait une filiation et qu'on n'était pas des vilains petits canards qui sortaient de rien du tout. Quand Duchamp installe son urinoir, il fait du théâtre d'objets avant qu'on invente le terme.
Puisque Christian, donc tu parles d'une espèce de d'histoire, pourquoi le théâtre d'objets, comment ce serait arrivé? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire que le théâtre d'objets arrive aussi en même temps que l'essor de l'objet de masse, de la société de consommation, etc. Vous êtes d'accord avec ça ou c'est quelque chose qui vous énerve parce que c'est pas si simple peut-être?
Moi, ça me plaît bien cette idée. En ce sens, il dit quelque chose de l'endroit et du temps dans lequel on est. Oui, ça, je pense, oui.
Philippe Foulquier.
Oui, pour dire que je ne sais pas, je crois pas qu'il y ait une histoire du théâtre d'objets. Il me semble que ce qu'on appelle le théâtre d'objets, c'est surtout la réunion de personnes jouant avec des choses et des concepts divers et des symboles variés, mais qui étaient tous de grands interprètes. Il y a un phénomène d'acteur dans le théâtre d'objets.
Jacques Templereau.
Et Giulio Molnar, je crois que c'est vraiment... oui, il a une présence d'acteur, enfin, il est vraiment... Mais il est capable aussi de se faire oublier. Et d'ailleurs, bon, ben, j'en parlais ce matin, là, c'est lui qui dit « L'objet joue tout seul, mais on peut l'aider un petit peu. » Et il alterne, je pense, un moment, on regarde que lui, et l'autre moment, on ne le regarde plus du tout, on regarde que l'objet. Et je pense que c'est l'alternance de l'objet et de l'acteur, c'est-à-dire que l'objet devient un véritable partenaire. Et c'est là que l'acteur, il n'est pas finalement... Ça donne en fait beaucoup plus de jeu à l'acteur, un autre partenaire qui est là et qui permet de y aller encore plus, de jouer encore plus.
Oui, je voudrais poser la question concernant les statuts en fait, qu'on pourrait donner sur celui de la marionnette et celui de l'objet. Parce que la marionnette, ce n'est qu'un objet, une matière, un matériau, et on l'oublie aussi.
Cyril Bourgois.
Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais en tout cas, dans le rapport, ce que je retiens de votre intervention, c'est le rapport entre, effectivement, la différence qu'on pourrait poser entre théâtre d'objet et théâtre de marionnette. Enfin, et quelque chose que j'entends là depuis le début, c'est qu'on n'utilise pas un mot que moi j'utilise beaucoup, par exemple, qui est la manipulation, en fait. Dans le théâtre d'objet, j'ai l'impression que qu'on est plus dans un rapport à des choses qu'on a pu ramasser, quelque chose qui est très, très personnel. Alors que c'est vrai que moi, quand je manipule, je rentre dedans. Non, mais oui, il y a une histoire de rentrer physiquement, alors que vous, j'ai l'impression que ça se passe plus dans un rapport avec l'objet. Qu'après, le marionnettiste, il est important, mais c'est pas du tout le même rapport à l'objet, en fait.
J'étais à plusieurs reprises frappé tout au long de cette discussion par l'apparente contradiction qu'il peut y avoir dans la manipulation, aussi bien de marionnettes que d'objets, entre la dimension visuelle et la dimension sonore. Dimension sonore représentée ou surreprésentée par la parole. Mais il y a aussi des objets sonores. Pierre Schaeffer, par exemple, en a démontré tout un vocabulaire. Donc est-ce que vous, metteur en scène de théâtre d'objets, vous êtes aussi tenté de travailler sur l'objet sonore et à l'intégrer dans vos créations sans qu'il y ait contradiction avec l'objet visuel, l'objet visible?
Alors, excuse-moi, juste avant que tu répondes, c'est une habile transition pour passer justement au thème de l'écriture, du langage, etc. Parce que je pense que ça procède aussi de ça.
Jacques Templereau.
À mon avis, ça marche complètement avec. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Alors, même pour revenir au texte de l'objet aussi, dans les ateliers aussi que j'ai pu animer avec Giulio Molnar, entre autres, pour faire parler un objet, on l'écoute, et puis il y a un petit son, et puis tout d'un coup, on sent que ça commence à nous raconter quelque chose, et peut-être qu'on prend un peu la voix de l'objet, enfin... Et l'objet, on part vraiment du son, là, très souvent. Oui, oui.
Alors, oui, mais de toute façon, son, rythme, apparition d'un corps sur la scène, tout ça, ça procède donc de ce qu'on met sous le vocable d'écriture. On ne dit pas le texte de la même manière, évidemment, quand on est un comédien sur scène, que quand on est un polichinelle dans un Castelet ou un manipulateur d'objets. Et surtout, s'intéresse-t-on aux mêmes textes? Est-ce qu'on a envie seulement de les interpréter, les textes, disons, classiques? Ou alors, est-ce qu'on est plus dans une espèce de recherche, justement, de sons, de sonorités, de petits gestes, d'onomatopées?
Catherine Somstey.
J'aurais envie de répondre par rapport à ça, parce que aussi c'est en lien avec ce que tu disais sur les objets sonores. J'ai réussi à faire à peu près 7 spectacles sans en dire un seul mot, Et à un moment, je me suis dit, maintenant, il faut parler. Le seul moyen de prendre le texte, pour moi, c'est de le prendre autrement que par son sens. Ou en tout cas, de prendre son sens à la même hauteur d'importance que sa sonorité, que son rythme et que l'histoire du langage que je suis en train de donner.
Roland Schoen.
Il y a mille façons de... Parce que moi, j'écris les textes, mais quand j'écris, j'écris. J'écris pas mes textes pour le théâtre. Je sais pas ce que ça veut dire. J'écris. J'écris tout le temps, et à par moment, j'écris quelque chose que je dis, tiens, je vais lui destiner à le mettre sur la scène, mais je me pose pas la question de savoir comment... C'est de l'écriture, c'est l'espace de la page. C'est pour ça, souvent, on dit il y a des écritures, les écritures théâtrales, les écritures scénographiques ou l'écriture de lumière. Bon, c'est une image un peu courante pour s'exprimer, mais c'est pas une écriture. L'écriture, c'est vraiment mettre des signes sur un papier, quoi. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce moment-là, c'est de ne pas penser que dans quel cadre ça va être, ça va venir après, quoi. Mais là, pour moi, là, enfin, pour moi, pas seulement pour moi, il y a plein d'autres gens, le texte, ça, c'est pas le théâtre. Il faut quand même se le dire, ça, parce que souvent, on est tellement imbibé de cette prédominance du théâtre comme littérature, quoi.
Je voulais revenir peut-être quelques instants sur la question des écritures. À propos de la marionnette et aussi bien du théâtre d'objet, une des grandes fonctions de l'écriture, c'est de transmettre. Donc peut-être parler un petit peu de transmission. Comment se transmet le répertoire marionnettique ou le répertoire d'objet? Puis comment est-ce qu'on peut imaginer que ces créations rentrent dans une forme de patrimoine et soient destinées à des générations ultérieures? Est-ce qu'il y a des didascalies? Est-ce qu'il y a une écriture du mouvement?
Cyril Bourgois.
Par rapport à la transmission, les didascalies, moi aussi j'ai essayé, parce que chaque fois que je pars sur un spectacle, j'essaie de me dire oui, cette fois-ci je vais garder une trace, comme ça quand on va le reprendre, on saura exactement. Mais déjà, je constate aussi qu'à chaque fois qu'on fait un travail de reprise, en fait, on fait un travail de recréation. Moi, je fais un peu partie de ceux qui trichent, c'est-à-dire que j'utilise aussi pas mal la vidéo. Autant je ne l'utilise pas comme moyen de promotion d'un spectacle, parce que je trouve que ça ne passe pas bien. Mais en revanche, je trouve que c'est assez intéressant pour garder les grands mouvements, ce qui se passe dans le Castellet ou sur la scène.
Il y a peut-être une confusion entre transmission et conservation. Le théâtre est littéraire.
Philippe Foulquier.
Tout ce qui est dimension littéraire du théâtre est conservé et donc peut être transmis en tant que tel. Les notes de mise en scène, les publications, c'est les notes de mise en scène. Il faut attendre, je crois, Stanislavski pour donc le début du XXe siècle, la fin du XIXe, pour voir des metteurs en scène qui apparaissent comme co-auteurs, en quelque sorte, puisqu'ils font des notes de mise en scène qui font des colles. Ça, c'est pour le théâtre en général. Moi, je me rappelle d'un débat avec Vitesse où il disait qu'il faudrait créer une vidéothèque et confier ça surtout pas à un metteur en scène, surtout pas à un réalisateur, mais quelqu'un de la Bibliothèque nationale qui serait comme un scribe, quoi. Donc une vidéothèque dans laquelle on pourrait voir la réalité du théâtre à son temps, sauf qu'on sait tous que la vidéo ne donne pas le théâtre, donne de la vidéo, quoi. La question de la transmission, là, forcément, on est obligé de se poser la différence entre transmission et conservation. La seule transmission possible, c'est le film, quoi. C'est l'image et le son.
Oui, elle est importante, cette question de la transmission, quand même.
Stéphanie Lefort.
Alors, on trouve des grandes figures de maîtres, peut-être dans les pays asiatiques, enfin, pas peut-être, sûrement, évidemment, dans les pays asiatiques, à Taïwan, au Japon, etc. Il existe des maîtres qui transmettent la marionnette. Je crois que dans nos pays occidentaux, on a moins cette espèce de rapport du disciple au maître.
On pourrait aussi imaginer une nouvelle forme de transmission et d'écriture du théâtre de marionnettes qui soit proche d'une partition.
David Girondin.
Après, libre à quelqu'un qui voudrait faire un spectacle d'un tel ou d'un tel, d'avoir les éléments, quitte à pouvoir, s'ils sont mieux conservés, parce qu'il y avait tout un débat sur la conservation des objets marionnettiques, pourquoi pas demander l'autorisation à la BNF ou au musée Gadagne ou je ne sais pas quoi, de pouvoir prendre telle marionnette d'un tel et rejouer le spectacle d'un tel avec toute une partition, après libre à l'interprète, comme n'importe qui va endosser un nouvel Hamlet, d'endosser tel spectacle charismatique ou mythique qui a traversé le temps. Ça pourrait être possible et envisageable, si la volonté de conservation et de transmission passait par là.
Roland Schoen.
Ça se transmet toujours par les corps et les objets. Pardon. Les corps et les objets. Et justement, l'illusion, quand on dit par rapport à des arts majeurs comme le théâtre ou comme la musique, on a parlé, la musique est devenue à un moment un art majeur, on dit il y a un art savant de la musique, mais ça n'a pas continué, ça n'a pas empêché que d'autres types de musique continuent à vivre et à se développer sans l'écriture. Ça, c'est toujours, ben oui, ça se transmet oralement, on transmet des choses, la façon de manipuler ou de travailler avec les objets, et ça, c'est par les corps que ça s'inscrit, cette mémoire, et non pas par le papier, quoi. Alors le papier, ça donne un pouvoir, pardon, de savant. Il y a des conservateurs, il y a des spécialistes, il y a des gloses qui se font là-dessus. Mais la vie, elle ne passe pas par là. Enfin, moi, j'ai l'impression.
On va conclure. On va évacuer la question des jeunes publics. Dommage, parce qu'elle est, elle est prégnante, cette question. Est-ce que vous voulez dire un mot sur cette question-là ?
Quand on a ouvert le Massalia,
Philippe Foulquier,
on était totalement imprégné de la dominante des marionnettistes, des grands marionnettistes français professionnels qui refoulaient beaucoup le jeune public. Alors on avait dit qu'on ne ferait pas de jeune public ou qu'on ferait du jeune public, mais pas systématiquement, quoi, qu'on ferait d'autres expériences. Et puis on a changé. On a changé très vite. Très vite, tout simplement, parce que le public a démenti. C'est-à-dire que les gens venaient en soirée. Il y avait toujours des mômes à chaque séance. Et il y avait... finalement, il y avait des adultes au spectacle de matinée. Et là, on s'est dit qu'on avait dû se tromper et qu'on était passé quelque chose d'important. Et donc, ça nous a orientés de manière assez déterminée vers le jeune public. Et on a découvert du même coup que le théâtre jeune public enfermait des mines d'or et qu'il fallait s'en inquiéter un peu et s'y intéresser. Et je pense que cette évolution de Massalia a fait bouger certains marionnettistes ou certains auteurs de théâtre d'objets qui finalement étaient un peu dans une méfiance de ce théâtre jeune public et qui finalement s'y sont mis parce qu'ils s'y mettaient quand même, mais se sont acceptés comme auteurs jeune public. Puppet regime taking over, yeah. We gonna blast that mother machine. You know how it is, yeah. It takes a puppet regime to bring down the rap public and money machine. Cash crop evil, poppy corny, corporate sales be counting jeans. I'm seeing plots of celery, got bouncing beans, mashed money. In this culture agri-clash, cows bite the grass like it's covered in honey. Vous écoutiez Objection, une émission consacrée aux nouvelles écritures des théâtres de marionnettes et d'objets, enregistrée le 1er décembre 2008 à Toulon, à l'occasion des Rencontres artistiques du Var, une journée proposée par le Conseil général du Var, le Massalia et le pôle jeune public. Les débats étaient présentés par Graziella Vugis, animés par Stéphanie Lefort. Prise de son, Pierre Brinjon. Interview et réalisation, Xavier Thomas, Radio Grenouille. Prochaine émission spéciale consacrée aux rencontres artistiques du Var, dimanche 11 janvier 2009, à 10h sur les 3-8. Et Mouvoir, il y sera question de danse, nouveaux territoires, nouvelles écritures, une réflexion proposée par la Tannerie à Barjol et le 3 Bicef à Aix-en-Provence. 50 Cent might have all the money, but you cannot show his face. Whenever he leaves his house behind, he's in a zoo in a Cadillac cage. There's another side of what you think you own, you better check it out. Cause them demons will stay hungry, plus their voices might turn loud. What the hell am I doing here? I thought I was checking into a hotel. No, I'm going to hell. Took a look into my heart and decided to situate my apartment right there inside the darkest part. I'm gonna get rich, a jet set snitch, putting on the sea funk at the Ritz. Yeah, me, a frog prince, charming your pants off. You know it's a crime against nature, but you just can't stop and I won't stop till I cop a helicopter for a half a mil. Got my sights locked on the bills, house in the hills, with the swimming pool filled with the drool of all the fools that make fun of me. You wanna see the sunshine, giving you a thousand rainy days. Some punchlines, now you're living in a tragedy. Well, it's all funny when you're the money, but the money it never pays your way. With Mephistopheles, the puppet regime, the puppet regime, the puppet regime, yeah. Taking
yeah.
Over.
Yeah, puppet regime, never just living a dream. Green, one hell of a scheme.
Puppet regime, the puppet regime, the puppet regime, taking over.
puppet regime. Fraggles in your limousine, Illuminati on your TV screen.
The puppet regime, the puppet regime, the puppet regime, taking over,
taking over, taking over,
taking over,
taking over.
What's in sunshine? Stop for less.